Bonjour et bienvenue sur La Voie Verte, le podcast qui vous accompagne sur le chemin d'une vie plus verte. Nous sommes Julie et Laetitia, les créatrices de ce podcast. Potager, plantes vertes, jardinage urbain, compost, cueillette sauvage. Dans chaque épisode, nous abordons un thème lié au monde végétal avec un ou une invitée. À travers ces interviews, nous vous donnons des conseils pratiques pour prendre soin de vos plantes et explorons ensemble le monde fascinant de la nature vivante. La Voie Verte est le podcast de Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers, que nous avons fondé toutes les deux. Ce magazine papier indépendant est dédié au jardinage, aux plantes et à la nature et sort tous les trimestres. Pour en savoir plus, direction Vert Magazine, veirmagazine.com. Allez hop, c'est parti pour la classe verte! Bonjour, ici Laetitia. Dans cet épisode, j'accueille Franck Deboutet, le cofondateur d'Embrun d'Herbe, un lieu atypique situé à Plogoff, dans le Finistère Sud, en Bretagne. Franck décrit ce lieu comme, je cite, « un laboratoire vivant de l'hébergement en éco-habitat bioclimatique et lieu de réflexion autour du développement durable ». Fin de citation. C'est un sacré programme, vous en conviendrez. Aujourd'hui, avec Franck, on va parler écotourisme. Qu'est-ce qu'un écogîte ? Quelles sont les techniques d'éco-construction que l'on peut mettre en œuvre ? Comment choisir un lieu de vacances responsable ? Et même, comment lancer votre propre écolieu. Maintenant, place à l'épisode. Bonjour Franck.
Bonjour Laetitia.
Et bienvenue au micro de La Voie Verte. Est-ce que pour commencer, tu peux tout simplement te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours ?
Alors, je suis Franck Deboutet, je suis architecte de formation. Karine, ma femme aussi, est architecte de formation. On a travaillé sur le domaine de l'écologie et l'architecture très rapidement, même si à l'époque, ça n'existait pas vraiment dans notre formation, en tous les cas. C'est pas...
À l'époque, tu es très très vieux, Franck, c'est ça?
Eh bien, écoute, j'ai 52 ans. ans, et à l'époque, on n'avait pas de prof qui nous initiait à au rapport environnemental de l'architecture. C'était un peu l'archistar, quoi. C'est un peu comme ça qu'on nous formait. Et par contre, j'avais un prof iranien qui m'a intéressé énormément tout de suite à l'architecture terre, et ça a été un petit peu le déclic. J'ai compris que en fait l'architecture pour moi n'avait intérêt que si on n'avait pas une feuille blanche, parce que justement on observait autour ce qui se passait, et donc déjà ça nous donnait des lignes et des éléments de base pour commencer. Donc ça, c'était le début, et puis on est parti donc à vivre à Menorca au Baléares, où on a travaillé pour des milliardaires. Là, c'était un petit peu le grand écart, puisque je me formais en permaculture et en éco-construction, en suivant Athena et Bilstein, qui sont les pionniers de la construction paille aux États-Unis, et à la permaculture avec différentes personnes. Et du coup, on y reviendra peut-être plus tard. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience du grand écart entre ce qu'on nous demandait de faire et ce vers quoi notre cœur nous amenait. Et ensuite, on a commencé à développer donc Embrun d'Herbe, sans savoir absolument pas du tout que ça allait devenir ce que c'est aujourd'hui. Au début, il s'agissait simplement de faire une petite maison autoconstruite en paille pour soi.
Donc, alors, tu vas nous raconter un petit peu ce qu'est Embrun d'Herbe finalement. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire où est implanté Embrun d'Herbe ? Parce que toi-même, tu es breton, puisque c'est en Bretagne. Et pourquoi vous avez choisi ce petit coin de terre-là ?
Alors, est-ce que je suis breton ? On dit breton de cœur.
Ça
non,
marche
je
aussi.
Je ne suis pas né en Bretagne. Karine est bretonne. Je suis né en Vendée. Et puis, j'ai beaucoup voyagé tout le temps. Donc, je ne m'estime pas forcément... d'être de quelque part en particulier. Enfin, si je suis né quelque part, ça je le sais. Mais après, je me sens un peu de partout où je vais.
Et comment vous avez trouvé Plogoff, du coup, pour vous installer ?
Alors, comment on a trouvé Plogoff ? C'était par l'intermédiaire du surf et du windsurf. J'avais tous mes copains, quand on faisait les Coupes de France, etc., qui se trouvaient dans le coin. Beaucoup se trouvaient ici. Et donc, j'étais hébergé souvent chez eux. Et j'aimais beaucoup. Ça, c'était mon premier point avec ce lieu-là. Ensuite, pourquoi on est vraiment venu ici ? À chaque fois qu'on s'est déplacé quelque part, c'est parce qu'on trouvait l'endroit beau, qu'on aimait le côté un peu brut de décoffrage. Quand on est parti vivre à Menorca, c'était la même chose. Quand on est venu ici, c'était aussi pour ça. C'était pas dans un but professionnel. on s'est toujours, on a toujours suivi nos, ce qu'appréciaient nos yeux, en fait.
Et c'était en quelle année?
Ça, c'était il y a 17 ans. Il y a 17 ans qu'on a commencé en brin d'herbe, mais on a le terrain depuis bien plus longtemps.
Tu nous disais tout à l'heure qu'au départ, c'était voilà, un petit un terrain et puis une petite maisonnette que vous avez commencé à construire. Comment ça a évolué ensuite en brin d'herbe et qu'est-ce que c'est aujourd'hui?
Alors, ça a évolué sans planification globale. C'est un petit peu l'opposé. On commence à évoluer de ce qu'on enseigne dans nos stages sur, par exemple, on vient d'en faire un là qui s'appelle 10 jours pour créer son hébergement écotouristique. Et c'est exactement l'opposé de ce qu'on enseigne. C'est-à-dire nous, on n'avait pas de plan global. On n'avait pas de master plan. On n'avait pas de feuille de route pour arriver à construire en brin d'herbe au début. Donc, c'était cette petite maison pour nous. Cette petite maison en paille, on voulait la garder pour la famille et les amis. Et puis, en fait, on a construit notre autre maison en paille. Et ce qui s'est passé, c'est que Karine avait son agence d'architecture et elle avait pas mal de demandes de construction paille. On a commencé à dire à ses clients qui s'intéressaient donc à ce type de construction, venez donc passer 2-3 jours dans une maison paille et puis ça va à voir si ça résonne ou pas pour vous. Et c'est un petit peu comme ça qu'est née l'idée de l'hébergement. Ensuite, on a développé étape par étape, suivant l'évolution aussi de l'agence Tierra, donc l'agence d'architecture de Karine, qui m'a demandé de construire un bâtiment pour son agence. Elle travaillait avec une associée espagnole. Elle travaille toujours d'ailleurs. Et du coup, on a construit un autre bâtiment, puis un autre, et puis un autre. Puis elles sont parties, en fait, un peu plus loin parce que l'agence s'est développée. Et du coup, ces bâtiments-là, on les a mis en location. Moi, je continuais à travailler, à construire d'autres chantiers, d'autres projets comme celui-ci, un peu au travers de l'Europe, ça va de un orphelinat à côté de Moscou, à une école Steiner à Helsinki, à une école en paille à Paris.
Que tu as aussi ta propre agence, comme Karine?
Non, j'ai eu. Mais après, en fait, je construisais de mes mains, j'organisais en fait des chantiers participatifs en Europe dans le cadre des financements européens qu'il y avait justement pour la formation en éco-construction. Et donc, c'était mon travail. Et je faisais en plus le développement d'ici sans vraiment savoir trop pourquoi, en fait. Et simplement, je suis venu en saturation de quantité de travail. J'ai eu un gros accident de santé. Et j'ai décidé, suite à un voyage, pour essayer de prendre un peu de recul, de tout arrêter complètement, mes autres activités que celles de développer ici. J'avais tout mon bagage de formation en éco-construction, de formation en permaculture, et j'avais envie de pouvoir développer ici. Et sachant qu'on avait construit tout auto-construit avec des types de matériaux différents, des types de constructions différentes. Et j'ai eu besoin de faire appel à une personne pour une coach qui m'a un petit peu aidé à y voir plus clair sur comment avec ces logements-là, on pouvait créer une société, créer en brin d'herbe, comment on pouvait y apporter de la valeur ajoutée pour y sortir quelque part aussi la possibilité d'en vivre, moi et aussi une autre personne, puisque je voulais plus travailler tout seul à 100% du temps. Et puis, ça faisait aussi partie de mon du rêve de ce lieu-là, c'est que ça puisse aussi s'insérer à la fois dans le tissu local et notamment par le fait de fournir du travail quelque part potentiel à une ou plusieurs personnes ici sur place.
Ça, puis il y a aussi une philosophie de slow life dont tu parles souvent sur les réseaux sociaux ou le site d'Embrin d'Herbe et qui est quand même de ralentir et de prendre du temps. Donc, j'imagine que tu essaies de te l'appliquer un petit peu à toi-même.
C'est un peu ma thérapie, en fait. Si j'en parle beaucoup, c'est parce que justement, je sais que pour moi, c'est vital maintenant, je le sais. Je pense que comme toi, comme d'autres personnes, plein d'autres personnes, tous ceux qui sont passionnés, ont tendance à appuyer un petit peu à fond sur le champignon quand on fait quelque chose qu'on aime, qui nous passionne. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu besoin de faire la part des choses et de supprimer un certain nombre d'éléments dans ma vie. Et donc, oui, de développer ce lieu-là avec ce phare-là qui est une façon de vivre. Pour moi, je peux parler d'une petite expérience qui a beaucoup compté pour moi. C'est la rencontre sur un chantier avec les moines zen du lieu qui s'appelle Kansoji en Dordogne, où j'ai organisé un chantier participatif. Et ces gens-là, j'y suis retourné plusieurs fois, et ces gens-là m'ont beaucoup apporté. Et leur philosophie, leur façon de voir les choses m'a beaucoup marqué, notamment dans le fait de faire les choses jusqu'au bout et en même temps d'être conscient que finalement, c'est pas forcément important du tout. Avant, j'étais beaucoup plus impliqué comme un militant, quelque part, en écologie. Et puis, plus du tout, après, je ne dis pas du tout que c'est pas nécessaire, hein, absolument pas. C'est simplement une autre façon d'agir. Et en tous les cas, moi, je me sentais pas à l'aise dans cette façon d'agir-là. Je suis pas un combattant, en fait. Et du coup, c'est plus pousser ma propre expérience jusque dans ces... De façon la plus épanouie possible. Et ça, le laisser rayonner.
Donc ça, c'est vrai que c'est la philosophie du lieu. On parlait de slow life et c'est quelque chose qu'on ressent vraiment sur place. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer tout simplement comment s'est organisé du coup en brin d'herbe les différents bâtiments là, dont tu as parlé et puis les activités, parce qu'il y a à la fois le lieu et il y a ce qui s'y passe aussi rapidement pour que les gens situent un petit peu de quoi on parle.
Souvent, en brin d'herbe, en fait, il y a la partie slow camp. Donc, celle dont tu parlais, c'est les hébergements écotouristiques qui vont être donc mis à disposition des touristes, mais pas que, puisque parfois on organise avec l'autre partie qui s'appelle Oasis de Bonheur, on organise des stages, des week-ends à thème. Alors, bien sûr, souvent autour de l'éco-construction, souvent autour de la permaculture et souvent un mélange des deux. Mais aussi l'entrepreneuriat, mais avec en insistant très très lourdement sur tout ce qui est éthique, le développement personnel aussi, puisque en fait pour nous une bonne entreprise ne peut être bonne que si la personne est vraiment, elle colle vraiment à la personne. Oasis de Bonheur, c'est tout ce qui est formation, stage. Ensuite, on va avoir la boutique utile qui, elle, est, on va dire, souvent que c'est une boutique où on y vend des choses faites avec le cœur. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on définit la boutique utile, mais c'est aussi de la restauration à emporter, faite à partir des produits locaux ou très locaux, c'est-à-dire du jardin. Et puis, il y a la dernière partie qui s'appelle Blog La Joie. Au début, c'était juste un blog, donc Blog La Joie, mais maintenant c'est plus une chose, justement, une entité qui va organiser des événements pour justement amener de la joie et de l'inspiration autour de ces thématiques qui sont assez légères et qui rapprochent quelque part de l'écologie. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, on aborde par la légèreté en fait, ici, l'écologie.
Ok, bah, c'est un beau concept. Avec ces quatre piliers, c'est super complet, ça aborde différents points. Si on revient sur le côté un peu technique du projet, je voudrais bien que tu nous expliques qu'est-ce que c'est un éco-habitat bioclimatique. C'est le terme que tu emploies pour décrire donc, les constructions qu'il y a sur ton terrain. Et la différence donc, entre un éco-habitat bioclimatique et puis après tout ce qui est écotourisme, écogîte, est-ce que pour faire de l'écotourisme, il faut forcément un éco-habitat? Qu'est-ce que c'est vraiment que de l'écotourisme? Parce qu'on trouve un peu toutes sortes de définitions. Voilà, est-ce que tu peux nous aider à y voir un petit peu plus clair dans tout ça et nous expliquer la partie un peu technique du projet?
Effectivement, on peut très facilement comprendre, en ce qui concerne l'architecture, qu'on peut construire un bâtiment très bon en termes de faible consommation d'énergie, mais qui n'est pas du tout fait à partir de matières biosourcées, par exemple. C'est-à-dire des matières qui vont être à la fois naturelles, mais qui vont aussi être disponibles en circuit court. Ça, il y a une grosse différence. Il y a même une différence entre matériaux naturels, mais matériaux naturels en circuit court. Ça, c'est encore autre chose. Donc ça, c'est important dans le bilan carbone global du bâtiment. Mais il suffit pas de faire une maison en paille pour que ça soit une maison bioclimatique. Une maison bioclimatique, c'est une maison qui va être, ou un bâtiment plutôt qu'une maison, qui va profiter de son environnement, qui va analyser donc l'environnement pour pouvoir tirer le bénéfice de, par exemple, une entrée de soleil, ou se protéger d'un vent dominant, par exemple, ou alors se mettre en tenant compte d'une pente ou l'analyse d'un terrain qui va nous permettre de savoir qu'il y a des poches chaudes ou des poches froides sur ce terrain. Donc tout ça, c'est ce qui va faire partie du côté bioclimatique. Mais effectivement, on peut faire une maison qui soit à la fois basse en consommation d'énergie et basse en consommation à construire, c'est-à-dire faite avec des matériaux naturels.
Il y a les trois aspects, en gros, il y a l'économie, l'optimisation de l'énergie, il y a le sourcing des matériaux qui peut être donc déjà naturel et en plus qui peuvent être locaux. Toi, tu as les trois, tu coches les trois cases, on va dire.
Alors, pas surtout, hein, on est loin d'être parfait, mais par exemple, sur les gaines, tout ce qui est transporter l'eau et transporter l'électricité, on est comme tout le monde, on utilise du pétrole. On aurait pu faire autrement, il y a des solutions, hein. C'est par exemple utiliser le grès pour faire les canalisations d'eau, les évacuations d'eau, mais voilà, c'est un chantier d'une vie quasiment en soi, donc c'est pas le choix qu'on a fait. Tout est une histoire de savoir là où je place le curseur par rapport à ce que j'estime être bien, pour moi en tout cas. Donc ce curseur-là, il est toujours valable, il faut toujours se poser pour chacun et pour chaque projet. Quand on me demande c'est quoi la maison la plus écologique, je dis c'est de pas faire de maison. C'est d'acheter, tu vas acheter une tente en plastique quechua, ça sera certainement beaucoup plus écologique que faire une maison en paille. Parce qu'en fait, au total, au final, construire une maison, c'est quand même un impact fort. On a donc deux maisons en paille ici. Donc quand je dis paille, c'est paille pour l'isolation, mais on utilise aussi beaucoup la terre. Donc la paille vient de 3 km d'ici, la terre vient de 5 km, puisque sur le terrain, on avait une terre qui n'était pas suffisamment argileuse. Le bois vient de Bretagne pour l'essentiel. À la fin, on n'en trouvait pas forcément systématiquement en Bretagne, donc il vient du coup d'Europe de l'Est, comme la plupart du Douglas. Maintenant, c'est très difficile de trouver du français. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a une grosse pénurie de bois en ce moment, qui a été en partie créée, en partie réelle.
Oui.
Après, on a d'autres bâtiments qui vont être en chanvre, lin et habits recyclés. Et puis, on a un autre bâtiment qui est en laine de mouton et ouate de cellulose.
D'accord.
Et après, c'est vrai comme on a tout auto-construit, la plupart du bois, on a réussi à récupérer, à avoir très peu de déchets de bois puisqu'on les a réutilisés d'un bâtiment à l'autre, etc., etc. Et c'est vrai que le gros avantage de ce type de construction, c'est de voir la taille de la benne à ordures, c'est-à-dire qu'il y en a quasiment pas en fait, à part quand tu commandes des fenêtres et qu'elles t'arrivent dans des paquets de plastique. Ça, c'est quasiment impossible de l'éviter. Par contre, à part de fabriquer soi-même ses menuiseries, mais sinon, c'est vrai qu'on a tout réutilisé.
Et tous ces matériaux différents, c'est pour tester différentes choses ou c'est parce que chaque maison avait des besoins différents?
Alors, on sait très bien que le plus performant de tout, c'est la maison en paille plus terre. Il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Après, il y a un autre paramètre. C'était le paramètre temps, fatigue et épaisseur de mur par rapport à la configuration du lieu, qui nous ont fait faire d'autres choix que la construction terre-paille sur d'autres bâtiments. Et puis finalement, ça a très bien tombé, parce qu'effectivement, comme tu le dis, ça nous permet de faire tester aux visiteurs différents types de bâtiments. Et d'ailleurs, j'en ai pas mal qui sont venus dans à peu près tous les bâtiments. Ils sont revenus et revenus, et donc qui ont testé les différents types de bâtiments afin de savoir si pour eux, ils se sentaient plus à l'aise dans tel ou tel bâtiment. Donc ça, c'est intéressant. Et ça nous permet aussi de voir le rendement par rapport à des sources de chaleur, par exemple. Je vais juste donner un petit chiffre. Coût total du chauffage pour chauffer deux maisons en paille pendant 10 ans, inférieur à 300 euros total.
Ah oui. Donc merci pour ces clarifications sur le côté construction. On va reparler après de l'écotourisme un peu plus en détail et du tourisme durable, comme tu disais. Avant ça, comme on parlait des maisons, j'aurais quand même qu'on évoque le jardin, parce que tu as un magnifique jardin en permaculture sur le terrain. Comment et à quel moment vous l'avez installé et comment vous êtes formé à la permaculture pour créer ce très beau jardin?
Alors, j'ai commencé à me former à la permaculture avant ça s'appelle à la permaculture, ou le bio d'ailleurs, avec mon grand-père, qui
ah oui. le meilleur formateur.
Était paysan et qui, lui, était vraiment, enfin, était complètement intégré, en fait, dans cette façon de faire. De par, par exemple, le temps qu'il passait assis au pied de son escalier en train d'observer son potager et d'observer le chant des oiseaux, observer le circuit de chaque animal qui vivait sur ce site, sur ce lieu.
C'est très slow life.
Donc ça, c'était très slow life et c'était très permacole comme approche, puisque c'est ce qu'on a fait ensuite. On n'a pas du tout développé le jardin dans un tout premier temps. On l'a observé, on a observé pendant quasiment avant de faire la totalité, de faire la grosse mise en place du design, on a observé quasiment 10 ans. Alors c'est pas forcément nécessaire d'observer autant. On a fait des choses progressivement, mais le design s'est fait avec Fabien Ferraud, qui est designer en permaculture. Moi, je me suis formé notamment à la ferme du Bec-et-Loin, mais pas que, dans différentes...
On a interviewé Charles-Hervé Gruyé dans un précédent podcast de la ferme du Bec-et-Loin.
C'est intéressant, je trouve, pour se former, d'aller voir différents angles d'approche de la permaculture, parce qu'il y a vraiment énormément entre la ferme du Bec-et-Loin, par exemple, et puis Steve Reed, par exemple, qui a habité en Bretagne, par exemple. Il y a vraiment des approches totalement différentes, et c'est intéressant, pas pour les juger, mais simplement pour savoir si une nous parle plus qu'une autre. Et je pense que cette diversité dans ces approches, c'est justement ce qui fait l'intérêt, que chacun puisse s'y trouver. Et je pense que plus il y a de diversité dans les approches, plus il y a de chances pour que ça touche un maximum de personnes.
Du coup, avec l'observation et ces différentes formations, après, tu as commencé à...
Voilà, après, on a commencé à penser design global. Et puis après, on a rencontré Fabien Ferraud, qui est designer, lui, et qui a fait la ferme de Desnier, vous pourrez aller voir. Et donc ici, on a développé un petit peu le jardin après le bâti, même si on avait déjà fait la phytoépuration, si on avait déjà pensé un certain nombre de choses, on est obligé de s'adapter à ce qu'on avait déjà construit. Et ça, c'est aussi une autre grande différence avec ce qu'on peut enseigner dans les stages. Justement, maintenant, ça nous paraît vraiment une évidence qu'il faut intégrer les outils de design en permaculture dès le départ dans le projet global. Et le bâti, en fait, il ne doit pas y avoir le bâti et le jardin, mais le bâti et le jardin vraiment en symbiose.
C'est vrai qu'on rappelle que la permaculture, c'est pas juste du jardinage, donc c'est pour ça que, en fait, d'intégrer à la partie construction, ça permet de penser les zones de manière totalement cohérente, les zones de vie, les zones de passage, de circulation, et puis les plantations, bien sûr.
C'est aussi un projet de vie. C'est le projet de vie que tu veux avoir dans le lieu et dans son intérieur et son extérieur. On a fait tout le travail qu'on a fait avec Fabien Ferraud, c'était de préciser justement, c'était là où vraiment on a commencé à préciser ce qu'on voulait faire avec Embrun d'herbe et quelle vie on voulait avoir, combien de temps on voulait passer dans ce jardin. Et donc ce jardin concrètement, en fait, il a été pensé avec le fonctionnement actuel et un fonctionnement potentiel futur. C'est-à-dire qu'actuellement, on a un ensemble touristique avec aussi des sur place, donc des stages, etc. Il fonctionne comme ça. On est propriétaire de l'ensemble. Il y a des intervenants extérieurs qui vont venir travailler ici. Mais ce lieu-là pourrait évoluer complètement. Ça pourrait devenir 3 maisons principales habitées par 3 familles différentes en copropriété, par exemple. Et à ce moment-là, le design a été fait pour répondre à cette évolution-là. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, 3 jardins potagers privatifs potentiels, des zones grandes de production collective. Par exemple, on peut imaginer que toute cette grande zone soit pour faire, entre guillemets, de la calorie patate. C'est beaucoup plus agréable de travailler ce type de production à plusieurs que individuellement. Par contre, faire ses petits rallyes dans son coin, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable à une échelle individuelle. Donc, c'est pour ça que le design a été pensé avec 3 jardins privatifs, mais aussi des parties collectives. Et puis, bien sûr, on avait deux grosses problématiques ici sur le terrain. C'était à la fois le vent très, très fort, salé, potentiel. On peut pas avoir une super belle vue mer depuis l'ensemble du terrain et des gîtes sans avoir le vent qui va avec. Et puis la deuxième contrainte, c'est qu'on avait une terre à la fois très, très, très drainante et absolument pas d'arrivée d'eau. Donc, pour lancer en tous les cas un jardin, il faut quand même de l'eau. Et puis là, on s'en rend compte en ce moment qu'on a vraiment bien fait de mettre l'accent là-dessus. On a 30 000 litres d'eau de capacité en rétention d'eau, plus le fait qu'on ait deux systèmes. C'est-à-dire qu'on a toute la phytoépuration, par exemple, qui va irriguer les sous-sols des potagers. Donc, quand quelqu'un passe du temps sous la douche, il peut déculpabiliser un petit peu, puisque quelque part, il arrose notre jardin.
D'accord.
Et on a un autre système d'eau, qui est donc toute la récupération d'eau de pluie, qui va être stockée dans la partie haute du terrain, qui va être connectée à différentes mares et abreuvoirs, dans le but aussi de, à la fois de stocker, mais aussi de créer de la biodiversité, de favoriser le développement d'insectes et donc d'oiseaux, etc., etc.
Ouais, il y a des points d'eau dans le jardin, effectivement, notamment une mare qui, en plus, visuellement, est très jolie. Et l'abreuvoir, d'accord, je ne le visualisais pas, parce que je précise que je suis venue vous voir l'été dernier. Donc, je vois très bien ce dont tu parles.
Depuis, tu n'as pas vu toute la partie qui est la partie où je suis là actuellement, qui est la partie boutique, qui est la pergola couverte, qui nous sert énormément pour les petits séminaires, pour les...
Tout à fait, ouais, c'était en construction.
Ça n'existait pas.
Non, ouais.
Et il y a tout, justement, toute cette partie-là a été faite aussi dans un projet avec une vision permacole, c'est-à-dire que ce lieu-là où je suis pourrait devenir un lieu collectif, avec la cuisine pro pourrait devenir un lieu de transformation, avec une boutique qui pourrait devenir un lieu pour vendre les produits faits sur place, même si c'était pas de façon touristique, et la salle commune pourrait vraiment devenir un lieu, c'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement, c'est déjà un lieu où on commence à faire des projections, des choses comme ça, à l'échelle locale. C'est-à-dire qu'on a deux versants, on a le côté, on s'adresse à des gens qui viennent de loin, qui vont venir de passage, mais on essaye de s'intégrer aussi dans le circuit court et de s'adresser aussi à la population qui vit autour de nous. Donc ça, c'est les deux aspects. Après, pour le jardin, il faut venir voir parce qu'il y a vraiment plein de choses à raconter. Il y a une plantation de 350 variétés différentes d'arbres et arbustes. Tout ça, ça a été pensé, bien sûr, par rapport à ce côté sel aussi. Donc on a toute une succession de haies qui a été pensée pour arriver à protéger les arbres fruitiers les plus fragiles. On a des parties... quand je parlais des trois potagers, actuellement, il n'y en a que... un qui est réellement en action, les autres c'est un verger potager et le dernier c'est un verger poulailler qui actuellement n'est plus que verger puisqu'on a eu la visite d'une fouine il y a 15 jours qui nous a tout absolument exterminé sauf les deux pondeuses qu'on avait à part. Ça fait partie du lot, c'est-à-dire qu'on a des zones 5 autour du terrain, des corridors sur lesquels on n'intervient absolument pas du tout.
Zone 5 en permaculture, ouais, des zones laissées totalement sauvages.
Voilà, et dedans, on a des hérissons, on a des lapins, mais on a aussi des fouines. Donc voilà.
Bon, j'espère que vous reconstituerez un petit poulailler. C'était très sympa aussi, c'est vrai, quand on séjourne chez vous, de se lever le matin, voir les petits poussins qui viennent, qui circulent librement sur le terrain. C'est chouette.
Ça reviendra, c'est cyclique.
Donc, pour revenir à l'écotourisme, le tourisme responsable, aujourd'hui, comme un peu tout ce qui est éco-responsable, c'est à la mode. Du coup, on entend beaucoup de monde se réclamer de l'hébergement éco-responsable, etc. Est-ce que tu peux nous aider un petit peu à démêler le vrai du faux? Est-ce qu'il y a des critères à respecter? Est-ce qu'il y a des labels? À quoi on peut se référer pour quand on veut faire justement du tourisme responsable, pour ne pas se tromper?
Alors, c'est vrai qu'il existe, il existe de plus en plus de labels, mais justement, malgré toute l'existence de ces labels, ça devient vraiment compliqué. J'ai un petit peu du mal moi-même à savoir dans lequel je dois me mettre et est-ce que je dois m'y mettre. Comme, par exemple, le maraîcher finit par se poser la question à savoir s'il se met en label bio ou pas.
Ouais.
Pour différentes raisons. Pour s'y retrouver, est-ce qu'il vaut mieux pas un petit peu aller creuser, aller gratter un petit peu, savoir si vraiment derrière tout ça, il y a de l'authenticité? En fait, le tourisme responsable, c'est finalement soi-même. C'est à soi qu'on doit s'adresser. C'est-à-dire, moi, je dois être responsable de savoir vers qui je m'engage, comment je m'engage. Et justement, peut-être qu'on doit arrêter de vouloir tomber dans la consommation facile en se précipitant sur une agence qui se dit verte, etc., parce que c'est ça, on peut tomber assez rapidement dans un risque. Là actuellement, quand on vient ici, quand les gens viennent à ces formations pour créer des lieux comme ça, on insiste beaucoup sur l'authenticité du projet par rapport à la personne. Le projet écologique ne va pas naître parce que je réponds à un cahier des charges s'il m'est forcé. Il va naître si vraiment j'en ai le cœur. S'il m'est forcé, ça va être sous la contrainte, ça sera pas dans la joie, ça sera pas quelque chose qu'on va faire intégralement bien, ou en tous les cas, on n'aura pas forcément envie, on va avoir envie de tricher. Je crois qu'il faut rester humble et, par exemple, ici, on a énormément de défauts à corriger. On a énormément de choses à améliorer dans le zéro déchet. On a plein de choses à améliorer. Et on a plein de choses, on en a parlé d'ailleurs ensemble, mais on a des choses. Et avec la Green Session, on a envie de faire des choses. Il y a plein de projets, notamment tout le textile qui est utilisé dans les gîtes. C'est quelque chose qui très rapidement m'est apparu comme un gros problème.
Le linge de lit, etc.
Voilà. Mm-hmm. Est-ce que je fais appel à une conciergerie qui va laver tout le linge avec des produits super toxiques et qui va les changer hyper régulièrement? Est-ce que je le fais moi-même? Qu'est-ce que je fais avec le fait que si une personne vient une nuit, je lave le linge, je lave le drap, je lave les serviettes, du coup j'ai une usure prématurée, qu'est-ce que je fais avec tout ce déchet? Et en fait, justement, on a essayé de penser à tout ça, donc comment devenir ici un point collecte pour les gîtes environnants et essayer de récupérer toutes ces serviettes pour en faire des ponchouilles, pour arriver justement à développer ici le tout ce potentiel par rapport au surf aussi. Donc, essayer de convertir les gîtes, les serviettes des gîtes en poncho pour les surfeurs, mais aussi tout ce qui est petit packaging des herbes aromatiques, etc., avec les draps. Donc là, bon, même chose, on fait travailler du coup une couturière locale, donc c'est bien économiquement, on reste dans un circuit court. Mais pour nous, ces points-là, par exemple, sont à développer. C'est des choses qu'on est sur lesquelles des sujets d'actualité pour nous. On n'est pas les plus performants non plus en termes d'utilisation de nos produits pour nettoyer, etc. On essaye de bien faire, mais on n'est pas encore dans l'autonomie, on sait qu'on peut faire mieux. Donc on est très bon au niveau bâtiment.
En tant qu'architecte, c'est vrai que c'est votre point fort.
Voilà, mais tu vois, il y a des points à améliorer et je crois qu'il faut rester un peu humble.
Ouais, chacun amène ce qu'il peut en fonction de sa personnalité, de ses sensibilités, de ses moyens.
Voilà, et voir vraiment quand on va voir, on va chercher son gîte pour cet été ou peut-être pour l'été d'après, du coup maintenant ça commence à être bien plein partout, mais peut-être un petit peu regarder dans la communication. Moi, je me méfierais un petit peu d'une communication où tout est parfait, où tout est fait absolument magnifiquement. Je pense que justement, ça fait partie de la permaculture de toujours être capable de regarder, de prendre du recul et regarder un petit peu si vraiment c'est si parfait que ça, si vraiment dans les pétales de la fleur de la permaculture, on est vraiment performant partout ou si on peut pas améliorer les choses. Et là, c'est un exercice qu'on fait justement en formation et que je fais faire même pour les stagiaires, d'avoir un regard critique sur notre projet qu'on a fait ici et ensuite d'avoir un regard critique sur le projet qu'ils ont en tête. Et c'est intéressant et c'est même motivant.
Et justement, quel conseil? Alors bon, tu fais des formations, donc je pense que tu peux en parler pendant plusieurs jours, mais s'il y a un ou deux conseils un peu clés que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer son éco-gîte?
Alors, déjà, c'est de dimensionner en fait sa capacité d'action. Est-ce qu'il veut travailler tout seul? Est-ce qu'il veut travailler à grande échelle? Parce que souvent l'écologie, c'est une histoire de quantité aussi. Tu vois, en tant qu'architecte, on doit faire partie des très rares architectes qui essayent toujours de faire voir le client à la baisse. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez pas vraiment vivre dans moins de mètres carrés? Parce que finalement, est-ce que c'est pas culturel le fait d'avoir 150 mètres carrés dans une maison? Est-ce que c'est pas culturel? Est-ce que vraiment on en a besoin? Et parce que c'est là le levier le plus facile pour avoir un bâti éco-construit. Ensuite, au niveau des gîtes, c'est d'intégrer dès le départ, même si on n'a pas de jardin, en fait, la notion de permaculture, tu l'as précisé tout à l'heure, c'est pas forcément du maraîchage. Et la notion de permaculture, elle est vraiment dans la vision globale des choses. Et cette vision globale, c'est pas simplement justement en faisant une maison en bois, c'est dans le soin que je vais apporter à moi aussi, à l'ensemble des personnes que je vais recevoir, mais à moi aussi. Et tout à l'heure, on a parlé aussi de la slow life. Je t'ai dit aussi, je t'ai avoué que c'était, même si j'en parlais beaucoup, c'est peut-être pas justement mon point fort, c'est le ce vers quoi je tends, parce que je sais que j'en ai besoin, mais c'est important, je crois, de se donner du temps à soi régulièrement, de pas surestimer en fait le temps qu'il faut pour créer son écolieu. Donc c'est important d'être de se borner aussi par des choses mathématiques, c'est-à-dire il faut pas hésiter vraiment à aborder aussi l'aspect financier et vraiment à mettre un cadre à la fois juste pourquoi je parle des finances, c'est parce que finalement j'ai besoin de tant de temps pour moi peut-être l'hiver, donc je peux pas travailler non-stop tout le temps 24 heures sur 24 12 mois sur 12. Donc, de combien de temps j'ai besoin pour me reposer? Et finalement, ce soin que je vais m'apporter, moi, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai besoin de faire un voyage l'hiver long, lent et dans le silence aussi, souvent. Donc, je vais surfer loin. Je vais surfer dans des endroits très différents d'ici. Et c'est souvent là, en fait, qu'on recharge les piles, qui vont nous permettre ensuite de donner aux autres et de permettre aux autres de se trouver dans des endroits où on va pouvoir qualifier d'aide à être dans le bien-être. Et cette slow life, on va pouvoir l'appliquer à partir du moment où on s'accorde des moments à soi pour ça.
Ça résonne chez moi, tout ce que tu dis, Franck.
Ouais, c'est pas simple.
On est sorti de cette interview un peu chamboulé. Bon, est-ce qu'il y a un modèle d'éco-gîte dont tu t'es inspiré, que tu aimes particulièrement?
D'éco-gîte, non. C'est un ensemble de. J'ai connaissance de lieux, mais du coup en.
Ou de lieux, ouais, inspirants.
De lieux qui vont être lointains, qui m'ont inspiré, que j'ai pas toujours forcément visité. C'est plus des lieux comme la ferme du Bec-et-Loing qui m'ont inspiré parce qu'ils regroupent à la fois, eux aussi ont développé tout un côté slow, etc. Et on sait très bien qu'en fait, ça n'est pas si simple pour eux au quotidien.
Oui, c'est beaucoup de travail aussi. Ouais.
Énormément de travail. En fait, tous ces métiers passion, hein, c'est toujours le risque. Hein, pourquoi je dis la ferme du Bec-et-Loing? Parce que c'est un petit paradis qu'ils ont créé. Et pour moi... ce couple a vraiment développé le côté aussi idyllique et un petit oasis. Et l'esthétisme est très, très, très important dans leur projet. Et pour moi, ça reste aussi une valeur qui m'anime. C'est-à-dire que faire un beau jardin, pour moi, c'est super important. Et ça, c'est ce qui fait que j'ai envie d'y travailler. Et le côté pratique pur, est important, mais pour moi, s'il est trop dissocié de l'esthétique, c'est vraiment difficile. Donc, la ferme du Bec-et-Loing, par exemple, m'a beaucoup inspiré, même si elle est très difficile à visiter maintenant.
Ouais, ils donnent des formations, hein, ceci dit. Je pense que c'est sur le terrain, je ne sais pas exactement où, mais...
Alors, il y a un lieu, effectivement, ils ont un lieu, effectivement, pour ça. Alors, ils ont moins en moins de formations parce que c'est justement ils en ont une là qui est super à faire que je recommande vivement qui s'appelle écologie intérieure. On l'a faite, Karine l'a fait deux fois
sur le bien-être massage thérapeutique.
Oui, ça devrait être remboursé par la sécu ce truc là c'est fabuleux en fait, on n'en ressort pas indemne.
Ok, écoute, il y a plein de choses encore à dire là-dessus et c'est très intéressant ce sujet, je pense, de l'éco-construction, l'éco-habitat et l'éco-tourisme. Mais on arrive sur la fin de l'interview et du coup, on va faire nos deux petites questions rituelles du podcast. Premièrement, si tu as une recommandation de livre ou de documentaire à nous partager.
La petite bible de vivre avec la terre, ce sont des bouquins. Qui aborde justement les trois aspects, l'aspect maraîchage, l'aspect permaculture globale et puis l'aspect micro-ferme. Donc ça va du concret à l'idéal en fait, ou de l'idéal au concret plus exactement. Donc c'est pour ça qu'il est très intéressant. Après il y en a des tonnes de bouquins qui nous ont inspirés. Hein.
Et enfin, pour terminer, ton petit conseil, ta petite astuce pour voir la vie en vert.
Eh bien, c'est un conseil que je m'applique à moi-même, c'est d'essayer justement de faire les choses pour soi, pas forcément vouloir démontrer quoi que ce soit à qui que ce soit, ou se placer en peut-être donneur de leçons, mais plutôt vraiment aller chercher dans son cœur pour vraiment savoir ce qui me parle à moi, est-ce que j'ai vraiment envie de faire à moi, et pas forcément l'image que ça va renvoyer aux autres. Et là, on va s'approcher de son alignement, et certainement que ça nous permet, quoi qu'il se passe autour, avec toutes les belles et les beaucoup moins belles choses qui se passent autour, ça permet de voir la vie en vert et de savoir pourquoi on se lève le matin et toutes les belles choses. Ce matin, par exemple, tu vois, je me suis posé, c'était le matin de l'oral du bac de mon fiston, donc comme tous les parents, ben, on est un peu stressé. Et je suis allé me prendre mon café très, très tôt avant tout le monde, le lever de tout le monde sur la terrasse. Il y avait un beau silence après la tempête qu'on vient d'avoir. Là. Il y avait un beau silence avec le petit gazouillis des oiseaux, le bruit de la mer au fond, le petit vent léger dans les feuillages. Ben, j'ai apprécié vraiment pleinement ce moment. Il était juste pour moi. Il était juste là et j'étais pas en train de le partager. Je l'ai pas. J'étais vraiment dans la contemplation de ce moment-là. Et c'est ça en fait. C'est faire les choses aussi pour soi et se rappeler un petit peu tout le temps que c'est pour se soigner soi qu'on fait les choses.
L'écologie intérieure, comme on disait tout à l'heure.
C'est ça.
Merci beaucoup, Franck, pour cet échange. Et puis, bel été à Embrun d'Herbes. J'imagine que l'été va quand même être un petit peu intense. Donc, j'espère que tu trouveras le temps de prendre quelques cafés sous la brise du matin.
Ce ne sera pas le moment le plus slow pour nous, mais par contre, ce sera un moment très joyeux. Il va y avoir des concerts, il va y avoir des choses magnifiques qui vont se produire avec des balades racontées dans les jardins, etc.
Ah, génial. Ça me donne envie de
mettre en place les événements. Voilà.
Ok, merci Franck, à bientôt.
Merci Laetitia, à bientôt.
Cette interview est terminée, mais restez en ligne. Maintenant, place au mémo de Vert Magazine avec tous nos conseils pour mettre facilement en pratique le sujet découvert dans l'interview du jour. J'espère que cet entretien avec Franck vous a plu et vous a donné envie de séjourner dans un éco-gîte cet été, ou peut-être d'en créer un. Voici un petit mémo pour vous rappeler les points clés des enseignements de Franck. Si vous souhaitez vous lancer dans un projet d'éco-gîte, Franck vous conseille plusieurs choses. Tout d'abord, bien dimensionner le projet, prendre en compte le nombre de personnes qui va s'en occuper, le temps dont vous disposez, la superficie dont vous avez vraiment besoin, les revenus financiers que vous souhaitez obtenir avec ce projet. Il vaut mieux effectivement partir plus petit, ne pas viser trop grand, à la fois pour vous ménager et aussi dans une approche un peu minimaliste du projet. Deuxième point, vous former. Ça tombe bien, chez Embrun d'Herbes, auprès de Franck et Karine, vous pouvez bénéficier de formations en création d'un concept écotouristique. Mais Franck recommande aussi les formations en permaculture à la ferme de Desnier en Belgique ou à la ferme du Bec-et-Loin en Normandie. Il a également parlé de la formation en écologie intérieure dans cette même ferme du Bec-et-Loin qu'il a testée et approuvée. Il s'agit aussi d'avoir une vision globale du lieu, à la fois des habitations, les hébergements, mais aussi le jardin, les zones sauvages, éventuellement le cadre de vie dans lequel votre projet s'intègre, afin de pouvoir designer votre projet selon le zonage propre à la permaculture, c'est-à-dire que les zones d'habitat, de circulation, de végétation, etc. doivent être cohérentes avec votre projet de vie. C'est un point important en permaculture et c'est un point sur lequel Franck a beaucoup insisté. Il a également conseillé de ne pas forcément chercher à obtenir un label qui vous obligerait peut-être à répondre à un cahier des charges un peu strict, mais plutôt à chercher l'authenticité et à privilégier les axes d'engagement qui vous correspondent et qui correspondent à votre personnalité et à vos envies. Et enfin, un conseil que j'aime beaucoup parmi les conseils prodigués par Franck, qui est de s'appliquer les principes de permaculture à soi-même. Et donc, pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Et voilà, vous savez tout. Sur ce, je vous souhaite un bel été.
La Voie Verte, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les informations concernant l'épisode dans la barre de description et sur notre site www.vertmagazine.com, rubrique podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à nous laisser un avis positif sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous souhaitez mettre un peu plus de vert dans votre vie, on ne peut que vous conseiller de vous abonner à Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers. Tous les numéros et les abonnements sont disponibles sur Vert Magazine, veirmagazine.com. Merci et à bientôt !